Il s'agit de photographies de grande taille, généralement dans un format panoramique en couleur, représentant des paysages des États-Unis d'Amérique, paysages en majorité urbains, omniprésence des routes, des rues, des voitures, des parkings, des enseignes, avec quelques exceptions pour des décors intérieurs ordinaires ou des paysages naturels. Les compositions sont solidement charpentées, lignes droites, diagonales, les couleurs extrêmement précises, les ciels dégagés. Le temps est clair, la lumière rarement agressive. Se glissent ça et là quelques portraits d'hommes et de femmes ordinaires qu'on imagine tout juste rencontrer et avec qui tout naturellement l'on a échangé quelques mots. Ces photographies, regroupées en 1982 sous le titre « Uncommon Places », « Lieux rares », résultent de plus de 10 années de voyage à travers les États-Unis sur les traces, nous dit-on, de Jack Kerouac et de Walker Evans. Ce travail de Stephen Shore, que l'on qualifie donc d'ethnologique, une vue objective de l'Amérique profonde, se teintrait également de lyrisme grâce en particulier à la couleur, magnificence des paysages, nostalgie du voyage et de l'errance sans fin des clochards célestes. C'est au carrefour de West 15th Street et de Vine Street à Cincinnati, dans l'Ohio, le 15 mai 1974. Il est environ 8 heures du matin, le soleil est dans l'axe de Vine Street et il projette sur le sol des ombres allongées. Une voiture vient juste de passer, un jeune homme s'apprête à traverser et un autre plus vieux va faire de même en sens inverse, qui s'appuie un peu sur un poteau comme pour prendre son élan. Sur le pignon de la maison, juste de l'autre côté de la rue, il y a une immense publicité peinte à même les briques et qui incite à économiser 50% sur ses crédits si l'on va chez Welsh Punch Shop, lettres noires et rouges sur fond ocre. Il y a encore 2 autres hommes qui marchent sur le trottoir d'en face, tous 2 vêtus d'une chemise blanche, et l'air plutôt décidé. À cette heure, les boutiques ne sont pas ouvertes, et la 15e rue qui file tout droit là-bas vers le grand immeuble bleu de Crozet, c'est écrit en lettres immenses au dernier étage. Le grand immeuble qui barre l'horizon, toutes les fenêtres sont fermées, il semble que la ville s'éveille à peine, il fait probablement encore un peu frais, mais ça ne va pas durer, à cette heure les femmes ne sont pas encore sorties, ni les enfants. Il y a ce type-là qui vient de se garer avec sa voiture bleue et blanche, il est en train de descendre. Et alors, seulement, on devine, à moitié dissimulée par le poteau, cette femme qui l'attend. Est-ce qu'elle est sortie de la voiture avant lui? Est-ce qu'elle l'attend? Et alors depuis quand? Ces paysages sont généralement déserts, à de rares exceptions près, vides de toute présence humaine. Il a donc fallu pour les prendre attendre, se lever tôt, guetter l'instant précis où les architectures, le ciel, le vent et la lumière se ligueraient pour offrir au photographe l'instant précis de sa photo. Qu'il s'agisse de ces photos de Stephen Shore ou de celles de son lointain aîné Eugène Adjaye, je me suis toujours demandé comment il faisait pour avoir ainsi accès à l'âme des lieux. Car je n'ai jamais douté un seul instant que les lieux comme les êtres vivants aient une âme, même muette, même impalpable, avec qui l'on puisse rentrer en contact pour les éprouver. Chacun en a fait d'une manière ou d'une autre l'expérience. Il y a des lieux a priori hostiles, des lieux a priori tristes, des lieux a priori bienveillants. Je ne peux lire autrement le travail de Stephen Shore qu'en le considérant comme un voyageur solitaire et silencieux, qui ne recherche rien d'autre que l'âme désolée de certains lieux rares. C'est au croisement de la 6e rue et de Throckmorton Street à Fort Worth, dans le Texas, Le 13 juin 1967, bizarrement, tous les feux sont rouges. Au premier plan, les lignes jaunes peintes sur la chaussée du parking, et puis deux bancs et un abri pour attendre le bus. De l'autre côté de la rue, un immeuble néoclassique, avec en façade une colonnade surmontée d'un fronton triangulaire. Au-delà, une sorte de dôme surmonté d'une croix. Il s'agit à coup sûr d'un bâtiment public, genre hôtel de ville ou tribunal. La pierre est claire. À droite, un immeuble de briques rouges, il a aujourd'hui disparu, et en remontant Throckmorton Street, l'amorce d'un building moderne en acier et en verre, au pied duquel, gigantesque, une œuvre d'art en tôle peinte en rouge. Plus loin encore, au-delà d'une trouée, un autre building en construction. La rue est absolument déserte, et la seule présence notable à cette heure, outre une petite voiture rouge qui semble avoir été abandonnée en face du tribunal, la seule présence est un papier, une feuille de journal qui gît là, sur le parking, et que nul saut de vent ne vient emporter. Sans doute cela ne peut-il se concevoir qu'avec le déplacement. Apprendre à voyager, apprendre à se mouvoir dans des villes inconnues, apprendre à suivre une route, apprendre à dormir dans des chambres lointaines, apprendre à passer ses soirées dans de lieux improbables, tout cela réclame non pas une absence d'attache comme on pourrait le croire, mais au contraire l'acceptation d'un centre, d'un point focal, d'une ligne de fuite non localisée. Cela ne signifie pas le silence, cela ne signifie pas l'absence, mais au contraire une capacité d'écoute, l'élaboration d'une parole libre capable d'accueillir en son sein le chant ou le murmure du monde. Les photos de Stephen Shore pourraient être d'abord et uniquement destinées à son journal, que cela ne me surprendrait pas. Qui n'a pas connu dans une ville étrangère cette sorte d'ivresse très douce? Ce ravissement très lent de se laisser emporter, de s'abandonner aux pensées apparemment décousues qu'elle fait entendre à l'intérieur de soi, si l'on sait y prêter attention. Cela se situe au croisement de la 5e rue et de Broadway à Eureka, en Californie, le 2 septembre 1974. Il y a au premier plan, dans un parking cerné d'une barrière composée de poteaux blancs, reliés les uns aux autres par deux chaînes également peintes en blanc, il y a 7 voitures garées en épi, 3 d'un côté et 4 de l'autre, plus une placée le long de la chaîne et une autre verte, elle aussi, stationnée le long du trottoir. Le parking est celui d'un restaurant nommé Sambo's, qu'on voit là à droite. Grandes lettres peintes sur des panneaux de bois suspendus le long du mur, et au-dessus de la façade qui est cachée une grande enseigne lumineuse qui se termine par une pointe avec en dessous 3 cartouches successives qui précisent pour le plus haut « Open 24 hours », pour celui d'en dessous « Sambo's » et pour le dernier « Restaurant ». Derrière, c'est Broadway et juste à gauche, la 5e rue qui part. Sur le trottoir, dans l'angle opposé du restaurant, une boutique qui vend des pneus, apparemment il n'y a personne, et dans le fond de l'autre côté, un marchand de voitures, et puis encore dressés côte à côte, 3 réservoirs à gaz surmontés d'une passerelle. Sur le toit d'une des voitures garée en épi, un bateau blanc, coque en l'air, et sur celle d'à côté, tout plein de sacs et de valises. On a dit de Stephen Shore qu'il était un photographe silencieux. Il faudrait ajouter qu'il est silencieux à la manière des peintres, et je pense en particulier à 2 d'entre ces peintres silencieux, l'Américain Edward Hopper et le Français Henri Rousseau, dit le douanier. Les photographies de Stephen Shore sont à mes yeux les pendants modernes des paysages urbains de Hopper et de Rousseau. À la fois absolument réel et absolument rêvé, empreint d'un sentiment très puissant que l'on nommera, à défaut d'un mot moins chargé, la nostalgie. Qu'il s'agisse de la lumière si douloureusement tranchante des peintures de Hooper ou des petites silhouettes noires qui semblent hanter les paysages urbains de Rousseau. Qu'il s'agisse des perspectives ouvertes, des lignes téléphoniques traversant le ciel, des façades, des vitrines, chacun comprendra à quels échos sensibles ces trois-là ont trempé leur voix et leur regard. On est le 8 août 1974 et c'est la rue principale de Ghoul Lake dans le Saskatchewan au Canada, le long de la Trans-Canada Highway. La rue principale donc au croisement d'une rue perpendiculaire d'où est prise la photo. De la maison qui fait l'angle, on ne voit qu'un pan de mur crépi avec fermé une fenêtre horizontale découpée en petits carreaux. Et puis en face, quatre bâtiments. Le premier a un étage percé de trois doubles fenêtres, dont quelques-unes sont ouvertes et d'autres murées. Au rez-de-chaussée, de part et d'autre d'une porte, deux boutiques. L'une dont on ne voit qu'un bout de vitrine occulté par un papier rose sur lequel on lit deux fois le mot « wall », coupé après le premier « L ». Et l'autre dont on distingue du nom que les mots « liquor » et « store » écrits en lettres rouges sur un cartouche blanc. Devant la boutique sont garées deux voitures. Ensuite, en descendant, il y a, dans un même bâtiment peint en blanc, une autre boutique dont on ne peut lire de l'enseigne qu'un grand V. Et puis ensuite, un bar reconnaissable à sa publicité pour Coca-Cola. Et enfin, après une sorte de terrain vague dénudé, encore une autre maison blanche d'un seul étage, derrière laquelle se dresse bleue une grande bâtisse en bois compliquée à l'allure de silos. Le ciel est d'un bleu intense et le soleil dessine très nettement sur la chaussée déserte du carrefour. L'ombre très précise d'un éclairage public accroché tout en haut d'un poteau, juste en dessous des lignes téléphoniques. Il entre enfin dans ce que j'entends du silence de Stephen Shore, le souvenir lointain de la voix de Kerouac lisant les San Francisco City Blues. De cette voix lancée, tensée, dansée, triste, nerveuse, de cette voix de nuit blanche et de matin gourd, de cette voix partie, perdue, enfouie, de cette voix qui m'a dit ces paysages bien avant que je puisse les voir, de cette voix qui m'a dit cette nostalgie bien avant que je puisse l'éprouver, de cette voix très lointainement amoureuse, de cette voix si vivante et déjà morte qui m'a appris à lire et à écrire. Stephen Shore marche dans les pas de Kerouac bien plus sûrement que tous les clichés dont on a pu affubler l'Amérique et Kerouac lui-même. Il est dans la ligne de ses mains, tout au fond de sa gorge et au coin de son œil, dans cette espérance, dans cette utopie qui lève et revient chaque jour se briser à ses pieds. Quand est-ce, bon Dieu, quand est-ce qu'on sera enfin tranquille ? Ce 21 juin 1974, il a plu. Les trottoirs commencent juste à sécher et la chaussée est encore toute détrempée. C'est à Philadelphie le croisement de la 25e rue avec Spoy Street. Immeuble en briques de deux ou trois étages d'un rouge très foncé, soubassement en pierre, balcon, fenêtre en bois sombre et faisant pour certaines légèrement saillie hors des façades, volets fermés ou grillages en protégeant l'accès. Deux arbres marquent l'angle des rues, tous deux légèrement penchés en avant au-dessus de la rue. Feuillage d'un vert un peu luisant, au pied de l'un d'entre eux est un amas de sacs poubelles. Des feux rouges peints en jaune règlent la circulation. Un panneau one-way indique que la 25e rue est à sens unique et, juste au bord du trottoir, plantée, épaisse et solide comme une bite d'amarrage, une borne à incendie d'un rouge étincelant.